France Inter. L'heure philo jusqu'à 21h, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Guillaume Ficheux à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Timo ! Vous dérangez pas pour moi les enfants. Jouez, jouez. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon alors. Simon, ici.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures?
Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te souffre pas.
Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non?
Mais où est-ce que je peux te le raconter alors? Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet.
Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni.
Ah bon, c'est normal? C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz.
Maman.
En plus, il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien.
Il a rien du tout! Tu veux voir ses radios?
Il a rien du tout! Demande à Madame Paquet! Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires! Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas! Combien je te dois?
Arrête!
Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein! Parce que ce sont encore ta propre mère! Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais!
Qu'est-ce que j'ai fait? Maman est brute!
Au revoir, Étienne! Au revoir ou adieu! Adieu, Bouli. Je n'ai même pas demandé les nouvelles.
Mais où tu vas? Où est-ce pas?
T'inquiète pas, je te laisse pas mon adresse. Comme ça, tu économiseras le timbre.
Arrête!
Extrait du film d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément. Scène d'anthologie au cours de laquelle Bouli, Guy Bedos plutôt, se fait harponner par sa maman, interprétée, elle, par Marthe Villalonga. Bonsoir, Clotilde Le Guil.
Bonsoir, Patricia Martin.
Vous signez un essai intitulé « L'ère du toxique », un essai sur le nouveau malaise dans la civilisation, publié aux presses universitaires de France. Les relations intrafamiliales font partie du lot de ce qui est toxique, lequel touche aussi bien le social, le politique que l'intime. Donc là, on a entendu, on peut dire que c'était une mère plutôt débordante et toxique. Nous allons examiner donc les choses dans le détail ce soir, mais diriez-vous que nous tenons là un nouveau poison, c'est-à-dire un poison qui envahit tout, toute notre société est contaminée par ce nouveau poison?
Bah, en tout cas, ce que je dirais déjà, c'est qu'au moment où le film est sorti, dont on vient d'entendre l'extrait, on n'employait pas du tout encore ce terme. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau qui nous arrive, en tout cas dans la langue, et on peut s'y intéresser, qui fait qu'en effet, ce terme de toxique a une extension tout à fait nouvelle hein, par rapport à ses usages au XXe siècle et à la fin du XXe siècle, et qu'il a une extension qui révèle aussi qu'il vient désigner quelque chose d'un malaise dans le rapport à l'autre. Effectivement, vous l'avez évoqué, ça peut désigner aussi bien dans un malaise dans le rapport familial, un malaise dans le rapport amoureux et sexuel, un malaise dans le lien social. Et au fond, effectivement, ce terme de toxique vient désigner de façon métaphorique un nouveau poison, en tout cas c'est la question que je me suis posée dans mon livre, un nouveau poison, une nouvelle substance empoisonnée qui circulerait entre les êtres à travers les discours et aussi à travers les expériences intimes et qui appelle, je pense, une interprétation. Parce que dès lors qu'un nouveau terme, ou en tout cas qu'un terme change au fond de sens dans la langue, quand on est philosophe et quand on est psychanalyste, on s'y intéresse.
Ce que vous êtes,
puisque voilà. Et d'autant plus quand on entend aussi, finalement, dans la clinique, quand on entend les jeunes patients faire usage de ce terme pour désigner quelque chose de leur malaise. Hein, faire l'usage de l'idée que certains schémas sont toxiques, certains regards sont toxiques, certains héritages sont toxiques, qu'on peut avoir un rapport à son corps toxique. Voilà, tous ces nouveaux usages, finalement, m'ont interrogée même si au départ, je dois reconnaître que ce terme de toxique ne faisait pas partie de ma langue.
Vous n'étiez pas familière du mot, vous avez même plutôt, vous le racontez, ça, tendance à vous en méfier.
Ben, je m'en méfiais un peu, disons que j'y voyais plutôt peut-être un effet de mode, et je me suis pas tout de suite aperçue, au fond, du poids qu'il avait, et peut-être de la valeur qu'on pouvait lui donner, à condition de chercher vraiment à l'interpréter, de se demander aussi quelle était son histoire, d'où il venait, et ce qu'il pouvait venir désigner d'une nouvelle forme d'angoisse.
Alors, il est pas nouveau, parce que Toxicon, notamment, mais ça, on va en parler tout à l'heure, mais vous évoquez, à un moment donné, Clotilde Le Guil, vous évoquez une exposition qui a lieu à la Biennale de Venise, c'était en 2006, dont le titre était « Where are we going ?». Et alors, à partir de là, en référence à une œuvre de Damien Hirst, et ça a fait... Ça a été peut-être la première pierre de ce chemin-là qui vous a mené jusqu'à l'ère du toxique.
Oui, peut-être. Alors peut-être que la toute première pierre, ça a été la rencontre en tant qu'étudiante en philosophie avec le discours de Rousseau, le discours sur les sciences et les arts, son discours de 1750, qui est un discours où Rousseau prend une position radicalement critique à l'égard du progrès des sciences et des techniques. Et il dit ceci, qui est tout de même frappant, qui m'était resté en mémoire, c'est que oui, on peut parler d'un progrès, mais si on l'entend comme le progrès d'une maladie, hein, une maladie qui viendrait se diffuser là dans la civilisation et qui peut-être nous ferait perdre quelque chose de notre humanité. Bon, ça c'est la thèse assez pessimiste de Rousseau quant au progrès des sciences et des arts. Et ensuite, effectivement, cette exposition, donc c'était en 2006, donc elle portait ce titre qui m'a interpellée, Where are we going? Et qui interrogeait finalement la destination de la civilisation, la destination du progrès, et qui à travers des œuvres d'art d'artistes contemporains interprétait au fond cette angoisse sur la destination de la civilisation. Et effectivement, cette exposition a été un moment en tout cas d'interrogation pour moi, mais là encore, le terme de toxique n'était pas disons présent de cette façon dans les discours. Et je crois que peut-être le moment qui a été décisif, ça a tout de même été ce moment de la pandémie et ce moment du confinement en 2020, cette pandémie mondiale et ce confinement mondial qui nous a conduit et qui m'a conduit aussi à vivre dans mon corps, au fond, quelque chose de cette angoisse, hein, de l'irrespirable, cette angoisse de l'enfermement, et qui m'a conduit à m'interroger sur cette hyper-productivité, cette hyper-activité, ce qu'on pourrait appeler depuis la psychanalyse ce surmoi productiviste de l'humanité qui fait qu'il faut sans cesse produire et accélérer nos activités jusqu'au point où l'humanité s'est retrouvée coupée de tout lien social et enfermée. Donc là, effectivement, je crois que ça a été un moment d'angoisse réelle, hein, qui a conduit à une interrogation.
Reportage qu'on va écouter ensemble sur la radio-télévision suisse qui a été diffusée en 2017. Jackie Ferrand, habitant dans le Bordelais, y était interviewé.
Si on n'employait pas de pesticides, le tiers de l'alimentation du monde serait perdu. Il faut donc penser que ces pesticides, parmi les autres pollutions, sont indispensables à l'agriculture.
Là, on est dans une parcelle de vigne qui était à Frédéric, qui n'avait pas planté dans cette partie parce qu'il comptait y installer son matériel, son exploitation, et même plus tard sa maison d'habitation sur la hauteur. Et très rapidement, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas bien, qu'il urinait le sang, et très rapidement, on a diagnostiqué un cancer de la vessie, et le médecin qui l'a reçu, l'urologue qui l'a reçu, quand il a vu le diagnostic devant lui, il a dit encore un. Encore un quoi ? Ben encore un viticulteur de 40 ans qui est touché par vraisemblablement des dérivés du benzène et qui a un cancer de la vessie. Le cancer de la vessie, on survit à peu près 18 mois et puis on en meurt. Voilà. Et Frédéric est mort. 18 mois après le diagnostic.
Depuis 1989, on parle d'éco-toxique. Longtemps, le toxique a été lié uniquement à des produits chimiques ou alors à des choses comme le tabac, l'alcool ou la drogue. Mais vous rappelez qu'il y a une biologiste, Rachel Carson, c'était donc dès 1962, qui parle de l'effet produit par les biocides sur le vivant.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une interrogation sur la toxicité des substances produites par l'industrie qui émerge dans la seconde partie du XXe siècle et d'ailleurs qu'on voit apparaître très bien au cinéma, notamment à travers ce film Soleil Vert de Richard Fleischer, qui est un film très frappant pour tous ceux qui l'ont vu, justement qui rend compte d'un moment où l'humanité aurait si bien œuvré grâce au progrès de l'industrie, que finalement toute nature et toute diversité du vivant aurait disparu et que l'humanité serait contrainte de se nourrir de petits carrés de soja dont elle ne sait même pas s'ils sont vraiment fabriqués avec du soja. Et vous avez toute une série d'interprétation par les cinéastes de science-fiction au fond de cette toxicité de l'activité humaine qui conduit à une forme d'inquiétude sur le forçage des limites du vivant et la disparité de la diversité du vivant. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve nous propulse aussi dans un monde où les arbres ont disparu, pourtant il en reste un seul qui est un arbre mort, mais qui devient comme un totem de ce monde disparu. Donc, effectivement, il y a une véritable interrogation au départ écologique sur la toxicité de ces substances de l'industrie qui viennent, au fond, au nom du progrès et au nom de la fabrication de nouveaux... produits aussi bien qui sont censés faciliter le quotidien de chacun, mais finalement qui viennent détruire et mettre en danger non seulement les êtres humains, mais aussi les animaux et la planète elle-même. Donc il y a effectivement l'interrogation au fond sur la toxicité. Elle apparaît d'abord dans le champ de l'écologie et je m'apercevais récemment, parce que depuis que j'ai écrit ce livre, effectivement, dès que j'entends le mot toxique, je m'intéresse à la façon dont il apparaît. Et en lisant le livre Les années d'Annie Ernaux, elle montre très bien dans les années comment, dans les années 70, on s'est mis à dire c'est toxique.
Ouais. Alors, une chanteuse que vous aimez très probablement, Clotilde Guy, c'est Amy Winehouse, Back to Black, une formidable chanson et un texte inoubliable sur la toxicité d'une relation entre un homme et une femme.
Same old, same bed.
Il est ce soir notre invité pour son essai « L'ère du toxique ». Toxique, c'est un terme mentionné par Freud dans « Malaise dans la civilisation », Clotilde Guin, mais l'origine du mot, elle est ancienne en fait. Hein. Déjà chez Aristote, il était question de « toxicon ».
Oui, c'est-à-dire que quand Freud mentionne le toxique, lui, il ne dit pas « le toxique », il mentionne les substances toxiques au sein d'un passage où il s'interroge sur justement le malaise que chacun éprouve dans la civilisation et sur la façon dont on peut chercher à apaiser ce malaise. Et il dit que la méthode la plus efficace, c'est en effet celle des substances toxiques parce qu'elle produit un effet immédiat dans le corps, elle nous soulage immédiatement de l'angoisse et finalement à sa façon, il rejoint ce que Baudelaire a pu dire des doux poisons et des paradis artificiels qui nous font éprouver une forme de volupté, volupté qu'on entendait aussi dans la chanson d'Amy Winehouse. Alors effectivement, le terme de toxicon, il a une origine antique qui est vraiment intéressante à explorer pour interpréter le sens métaphorique qu'a pris le toxique au XXIe siècle. Ce terme de toxicon, il désignait d'abord, on le rencontre effectivement dans un texte qui est attribué à Aristote, et on le rencontre dans ce texte, et cela désigne le poison dont les barbares, les Celtes, ici imprégnaient leurs flèches à la chasse, un poison extrêmement violent qui, une fois qu'il était diffusé dans la chair de la proie, pouvait putréfier à une vitesse fulgurante l'animal, et on se précipitait pour mutiler la partie qui avait été empoisonnée afin de sauver la proie et le gibier. Et ce texte est très joli parce que c'est un texte qui déjà s'interroge sur l'antidote. Et on se demande, est-ce qu'il y a une antidote à ce toxicon dont usent les barbares ? Et on dit qu'on a vu une fois un corbeau qui avait été empoisonné mais qui après a picoré de l'écorce de chêne et qui s'est trouvé guéri. Donc il y a comme ça déjà une mythologie qui naît autour de ce terme de toxicon. Et moi ce qui m'a intéressé c'est cette image de la flèche empoisonnée. Parce que je me suis dit finalement que ce qu'on appelle aujourd'hui amour toxique ou relation toxique désigne une expérience qui aurait à voir avec effectivement une flèche de l'autre qui viendrait se planter dans notre chair, qui dans un premier temps nous inoculerait une substance qui nous procurerait une forme de plaisir et peut-être de jouissance, mais qui en viendrait ensuite à nous empoisonner et peut-être même à mettre en danger hein, notre force vitale.
Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de physique dans l'atteinte.
Voilà, c'est ça. Ce que je trouve intéressant dans le terme de toxique, c'est qu'à la fois dans son emploi actuel, il relève d'une métaphore puisque il n'y a pas de substance au sens la chimique hein, qui est désignée et que ça passe par les mots et par la rencontre et par les corps, mais en même temps ça désigne effectivement une atteinte dans le corps d'une certaine façon, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme d'empoisonnement. Et effectivement la question c'est qu'une fois que ce toxicon s'est diffusé en notre corps,
peut s'en débarrasser,
comment s'en défaire, parce que est-ce qu'on peut mutiler la partie empoisonnée? Non, ça s'est diffusé dans la totalité du corps et au fond, ça désigne, enfin, ce toxicon, est-ce qu'il ne désigne pas une substance que Lacan a pu appeler la jouissance, cette substance jouissante qui circule aussi en nos veines à travers les mots, à travers les phrases, à travers les rencontres qui nous ont marqués.
Mais en tout cas, ça métamorphose le rapport que nous avons les uns avec les autres et ça métamorphose aussi, donc, on l'a vu avec l'écotoxique, notre rapport au monde.
Oui, c'est-à-dire que je propose hein, d'interpréter ce terme de toxique aussi comme étant une façon de désigner un danger nouveau, là où finalement on ne fait plus référence de façon traditionnelle ou métaphysique au bien, au mal, au permis, à l'intérieur.
On se demande même si dans ce monde-là, dans cette ère-là, il y a encore un bien et un mal.
C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant de s'apercevoir que ce terme de toxique, il nous force à remonter remonter à l'Antiquité, c'est-à-dire en deçà, au fond, de la tradition judéo-chrétienne, ouais. et évidemment du mythe du péché originel. Et donc, il désigne un rapport, disons, au mal, mais qui se situerait au niveau du corps, hein, comme ce qui viendrait empoisonner le corps, mettre en danger le vivant, et ce qui appellerait aussi une limite. Parce qu'au fond, quand on dit « c'est toxique », qu'est-ce qu'on veut dire par là, quand on dit « c'est toxique » Est-ce qu'on ne désigne pas par là une angoisse éprouvée par rapport à une expérience dont on ne saisit pas très bien les ressorts psychiques, enfin, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce que l'autre nous a dit, qu'est-ce qui fait qu'on est sous emprise, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'en extraire, mais au moins en disant c'est toxique, et souvent on ne peut le dire qu'après coup, eh bien, on vient chercher une limite. Il y a quelque chose qui doit là rencontrer une limite.
Extrait du film, ou plutôt c'est la bande-annonce du film de Volker Schlendorf, c'était en 1966, tiré lui-même du roman de Robert Musil, Les désarrois de l'élève Torless.
Ce film est tiré du célèbre ouvrage que Robert Musil a écrit au début du siècle. L'action tout entière se passe dans un collège pour jeunes aristocrates situé aux confins de l'Autriche-Hongrie.
Il paraît que tu nous insultes maintenant? Et devant Basini?
Oui, parce que vous me dégoûtez.
L'auteur de cette œuvre cruelle a-t-il eu une prémonition du nazisme et de l'univers concentrationnaire? On pourrait le croire.
Allons, souris, souris.
Tu fais celui qui est triste. Très bien, je vais te donner une bonne raison de l'être.
Tout est possible puisque tout est à la fois propre et sale. Il n'existe pas deux mondes différents. Ça, je le sais maintenant.
Ça te dégoûte? Dis-le, si c'est ça.
L'ouvrage a fait scandale à son époque, car il est atroce. Mais aujourd'hui, à la lueur d'un passé encore si proche, espérons qu'il sera considéré comme un cri d'alarme. Un cri dont l'écho ne devrait jamais se taire.
Alors ça vaut vraiment la peine qu'on s'y arrête, parce que d'abord, c'est, je dirais que c'est pas un fil rouge, mais enfin tout de même, vous y revenez à plusieurs reprises dans votre essai, Clotilde Le Guil. C'est le premier roman, hein, les désarrois de l'élève Torless, c'est le premier roman de Robert Musil. Il a 26 ans, et on est en 1906 hein, quand il écrit ça. Et là, c'est vraiment l'histoire d'une expérience diabolique et toxique.
C'est vraiment l'entrée là en littérature de l'expérience toxique. Musil a lui-même été mis dans un pensionnat, le pensionnat d'Eisenstadt.
Donc c'est autobiographique.
Que voilà, ce premier roman d'apprentissage est un récit autobiographique qui témoigne de l'expérience toxique sans doute qu'il a faite lui-même, mais surtout qui parvient à nous faire plonger au cœur même d'une expérience toxique pour Turles, qui est donc le héros du livre. Expérience toxique qui est d'autant plus intéressante que Turles a une position de témoin. Il s'agit, on parlerait aussi aujourd'hui de harcèlement.
Absolument.
Il s'agit au départ d'un camarade Basini qui, suite au vol qu'il a commis, va se retrouver harcelé par les deux leaders de la classe.
Qui menace de le dénoncer.
Qui le menace de le dénoncer et qui lui font passer un pacte d'assujettissement. Hein, c'est-à-dire qu'ils lui promettent de ne pas le dénoncer à condition qu'il se soumette totalement à leur caprice. Et le contenu du pacte va consister finalement à emmener chaque nuit le pauvre Basini dans une pièce, dans un
crescendo.
Grenier, voilà, et à le tourmenter, comme vous dites, crescendo, c'est-à-dire que effectivement, chaque tourment ne pourra à chaque fois que franchir un seuil supplémentaire dans le sadisme pour que les bourreaux puissent continuer au fond de jouir de cette position de harceleur. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à l'expérience toxique, c'est ce qui arrive à Turles. Turles n'est pas à l'initiative de ce harcèlement, mais Turles se retrouve en position de témoin et de par sa lâcheté et en même temps de par sa fascination, il se voit soumis lui aussi à une forme de plaisir qu'il va prendre à cette expérience qui va consister à assister à ces tourments infligés à l'autre.
Donc d'y participer en quelque sorte, d'une certaine manière. Même.
Et il va finir par y participer. Et ce qui est très précis dans la façon dont Musil décrit les choses, et c'est vraiment ce qui a fait rencontre pour moi avec le terme de toxique, c'est qu'il montre, il dit à un moment que lorsque Thurless entend donc le leader de la classe qui décide de passer ce pacte diabolique avec Basini, lorsqu'il entend il s'appelle Beinberg, ce leader, justifier son action par un grand discours justement sur la punition, sur la nécessité de punir Basini au nom du bien, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le mal au nom du bien. C'est le bien qui exige de faire le mal, et Musil décrit que ce discours pénètre dans les pores de Thurless, de sa peau, et elles lui font l'effet de 1000 flèches qui viennent justement l'intoxiquer. Et donc cette figure de la flèche vraiment nous renvoie au toxicone.
Mais qu'est-ce qui peut sauver l'élève Thurless, parce qu'on s'aperçoit que pas son père, pas les mathématiques, pas la philosophie non plus, c'est-à-dire que vous montrez bien que Kant fait un peu de poids face à ce toxique-là.
Oui, ce qui est très beau, c'est que, et on l'a entendu dans l'extrait, il y a un moment où Thurless va effectivement basculer, où il va participer à ces scènes de tourment qui tournent à la torture, mais il y a aussi un moment où il va en éprouver une angoisse et un dégoût. Ouais. Et c'est là qu'il va chercher secours, au fond. Qu'est-ce qui va pouvoir faire limite à cette expérience toxique? Et ce que nous montre Musil, c'est que on arrive à un moment de la civilisation en 1906, donc un moment où finalement, ce qui faisait autorité auparavant, donc là, l'autorité du côté militaire, la parole du père, le discours de la science, les mathématiques, la morale kantienne, ce qui faisait autorité ne parvient plus à limiter cette jouissance mauvaise qui va être vraiment une jouissance qu'on pourrait appeler sadienne. Et donc, Thurless, effectivement, va se tourner de façon désespérée vers son père en lui écrivant une lettre et en cherchant à faire savoir à son père ce qui se produit dans ce pensée. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va basculer définitivement dans l'abjection.
Et son père ne comprend pas.
Il ne veut rien savoir. Son père se situe du point de vue d'une morale formelle kantienne. Tu dois rester au pensionnat. Tu dois obéir aux règles du pensionnat. Et au fond, peu importe si dans le grenier, ce pacte de suggestion conduit à réaliser le mal. Et au fond, ce qui va permettre à Thurless de s'extraire de cette expérience toxique, c'est justement le dégoût qu'il va éprouver à un moment en son corps. Le dégoût de ce toxicone, de cette jouissance toxique qui s'est diffusée en lui et qui va faire limite à un moment. C'est très intéressant de voir que l'affect de dégoût vient faire limite là où plus aucune parole au fond émanant d'une autorité peut au fond mettre un terme à ce toxicone.
Mais alors ce qui est très intéressant, parce que là vous avez fait allusion à Sade, c'est qu'à un moment donné vous parlez justement, c'est un peu Sade contre Kant, c'est-à-dire que chacun est pris entre les injonctions de l'un et les injonctions de l'autre. Du côté de Sade, on est bien au fond dans le mal, le mal qu'on recherche à tout prix. Et pour Kant, au contraire, même si c'est douloureux, il faut sacrifier ses penchants parce que ça permet, au fond, d'être du côté du bien.
Voilà. Ce rapprochement, effectivement, il a été fait par Jacques Lacan dans un très bel écrit qui, au départ, devait être une préface à la philosophie dans le boudoir de Sade. Donc, cet écrit s'intitule Kant avec Sade. Et évidemment, quand on est philosophe, c'est un rapprochement qui est assez inouï et saisissant et auquel on n'avait pas pensé quand on étudiait la critique de la raison pratique et les fondements de la métaphysique des mœurs. Et c'est un rapprochement absolument inédit que fait Lacan, qui nous permet de saisir quelque chose du surmoi dans ces deux faces, à la fois la face qu'il appelle kantienne, c'est-à-dire celle qui conduit à faire son devoir et à sacrifier toujours ses penchants, son désir et évidemment aussi son plaisir.
Et un autre surmoi qui a perdu toute humanité, en fait.
Voilà, et alors qui est aussi inhumain, au fond, là, le surmoi kantien, le surmoi de la loi morale, de l'impératif catégorique. On sait à quel point il est inhumain quand on entendra Eichmann dire qu'au fond, il n'a fait que son devoir, notamment, ça a été évidemment relevé par Hannah Arendt dans son livre sur Eichmann. Mais l'autre face du surmoi que Lacan débusque et qui là, disons, renvoie peut-être vraiment à notre moment aussi du toxique, c'est la face sadienne, c'est-à-dire celle qui nous force à jouir toujours plus. Et au fond, qui fait que là aussi, on sacrifie son désir. Au fond, d'un côté comme de l'autre, du côté de Kant, il s'agissait de sacrifier son désir au nom du devoir moral. Et du côté de Sade, il s'agit de sacrifier aussi, d'une certaine façon, son désir.
À quoi ? Une pulsion ?
C'est ça. Au nom non seulement d'un droit de jouir, mais d'un devoir de jouir sans qu'aucune limite m'arrête.
Donc, mais là, on confond en fait le désir et la pulsion.
Parce voilà, c'est ça.
Normalement, il n'y a pas de normalité.
C'est une distinction que Lacan a apportée qui est essentielle et qui éclaire de façon, il m'a semblé, qui éclaire vraiment ce que Musil nous montre dans Les désarrois et les lefteles, c'est-à-dire que le moment de désarroi, justement, est rencontré face à ce trop de jouissance nocive, face à cette jouissance mauvaise, et c'est là que finalement, la question se pose de ce qui peut faire limite à cette pulsion et que, au fond, ce que Lacan nous apporte, qui a une actualité incroyable aujourd'hui, c'est que ce qui peut faire limite à la pulsion, c'est pas le devoir moral. Ce qui fait limite à la pulsion, c'est le désir et toute la dignité du désir.
Est-ce que le droit à la jouissance nous aurait égarés, en fait ? Parce qu'on a parlé, en mai 68 notamment, on a parlé du droit à la jouissance.
Voilà, ben c'est vrai que...
De jouir sans entrave.
On peut se demander, au fond, si ce moment du toxique ne vient pas en réponse avec un trop de jouissance qui a pris son essor, en effet, d'un moment en même temps qui a été un moment d'effervescence, un moment très joyeux de 68 et des années 70, avec cette idée de « il est interdit d'interdire et il faut libérer le désir et la jouissance ». Mais au fond, il y avait aussi un point aveugle dans cette promesse de bonheur à travers la libération du désir et de la jouissance. Et le point aveugle, c'est à la fois la question du consentement, et le point aveugle, c'est aussi la question de cette différence entre jouissance et désir qu'on peut mesurer lorsqu'on aperçoit qu'il y a quelque chose aussi de la pulsion de mort dans la jouissance, et qu'au fond, à ne suivre que la jouissance, on retrouve la question de départ, where are we going ? Vers où dérivons-nous ? Lorsque nous suivons que la jouissance, est-ce que nous ne finissons pas par rencontrer le toxique ?
Vanessa Springora, autrice du livre Le Consentement, dans lequel elle raconte comment, à l'âge de 14 ans, elle a été l'objet d'une manipulation psychique et amoureuse, enfin amoureuse, c'est ce qu'elle croyait. Le Consentement, donc le livre qui a suscité beaucoup de réactions, ce qui l'a étonnée, c'était au micro de Laure Adler dans L'Heure Bleue en 2020.
Alors je suis complètement abasourdie parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai tellement été habituée en fait depuis 30 ans à ce qu'il y ait justement ce silence dont vous parliez tout à l'heure, cette forme de... Moi, j'appelle la complaisance. On peut parler aussi un peu d'hypocrisie, d'omerta. Il y avait une connaissance de cette dimension-là chez cet homme, mais elle était tue, elle était un peu mise sous le tapis. C'est-à-dire qu'on mettait en avant une autre partie de son œuvre, pas forcément ces passages-là que tout le monde est en train de découvrir aujourd'hui, qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux et qui donnent franchement la nausée. Il y en a certains d'ailleurs que j'ai découvert moi-même. Je suis très étonnée qu'un simple livre, le mien, ait pu déclencher une telle déflagration avec des réactions en chaîne auxquelles je m'attendais pas du tout, et ça prouve qu'on a complètement changé d'époque, effectivement.
Donc, déflagration, dit Vanessa Springora, tout ça participe à l'élimination du toxique, peut-être. Hein, on peut se dire que MeToo est un pas, en tout cas. L'amour qui devrait pouvoir nous sauver du toxique, l'amour peut être lui-même toxique.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, en tout cas, déjà, ce dont témoigne Vanessa Springora, c'est que nous avons changé d'époque et nous disons que nous avons une sensibilité nouvelle à ces expériences dites toxiques qui effectivement étaient considérées, enfin plutôt déconsidérées avant MeToo.
On a changé d'époque.
On a vraiment changé d'époque de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce sont des expériences qui ne concernent pas que l'intime mais qui concernent aussi l'éthique et qui concernent aussi le politique. Le livre de Vanessa Springora, Le consentement, pour moi a été vraiment une rencontre décisive dans mon travail précédent, enfin le livre Céder n'est pas consentir qui est paru en 2021. Et je cite parce que l'ère du toxique est vraiment pour moi la suite. Hein, ce sont deux livres qui prolongent une interrogation sur ces expériences troubles où on ne sait pas très bien si on a consenti, si on s'est forcé, si on a maltraité son désir. Et je pense que l'expérience toxique désigne là aussi un degré assez radical de l'expérience de se laisser faire sans bien saisir ce qui nous arrive. Effectivement, ce qui est très beau dans ce qu'a apporté Vanessa Springora est très précieux. Enfin, je dis beau parce que j'ai bien aimé son écriture, mais ce qui est très précieux du point de vue aussi clinique, puisque là, je parle aussi en tant que psychanalyste.
Et je rappelle d'ailleurs aux auditeurs de France Inter qui le savent déjà parce qu'ils vous suivent, qu'on vous retrouve un dimanche par mois, hein, puisque vous êtes quatre, un dimanche par mois à 16h.
Oui, dans le podcast L'Inconscient, voilà. Je fais un cycle d'ailleurs actuellement sur le consentement.
Sur le consentement, voilà. Très bien.
Et ce qui est très beau donc, dans la position subjective de Vanessa Springora dans ce livre, c'est qu'elle s'interroge sur son propre consentement. C'est-à-dire que avec MeToo, on a eu vraiment une révolte qui a fait entendre un non et qui a dénoncé, au fond, quelque chose de l'ordre de la violation et de la généralisation de pratiques de violation. Et mais avec la littérature, depuis la littérature, et depuis notamment le récit de Vanessa Springora, mais ensuite depuis aussi d'autres récits, comme celui qui vient de paraître et qui est aussi extraordinaire de Neige Sino, Triste Tigre, il y a magnifique livre. Il y a vraiment...
Qui a reçu le prix Fémina et le prix...
Et le prix Goncourt des lycéens. Voilà. Et je suis contente de le citer parce que je trouve que c'est un livre qui apporte aussi quelque chose de nouveau sur cette question de l'expérience toxique et du consentement forcé. Ce que Vanessa Springora a apporté, c'est cette interrogation sur son propre consentement qui fait que finalement, enfin moi je l'ai interprété comme ça, disons depuis la psychanalyse et avec Lacan, ce à quoi elle a consenti n'est pas du même ordre que ce à quoi elle a cédé.
Et Emma Bovary s'est pas posée ce genre de question.
Alors Emma Bovary, elle était consentante jusqu'au bout. Elle était tellement consentante que finalement, elle a perdu au fond peut-être quelque chose de son attachement à la vie dans une jouissance de l'amour qui était au-delà même de la vie. Mais question de l'amour.
Interrompu oui, sur, non, c'est sur Vanessa Springora.
Oui, sur non pour rendre compte du fait que ce qu'on appelle aujourd'hui amour toxique. Et tout de même à interpréter, et tout de même un mystère, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de toujours rejeter sur l'autre, au fond, la dimension du toxique. Justement, ce qui est intéressant, je pense, dans la dimension du toxique, c'est de s'interroger sur ce qui est venu nous intoxiquer et ce qui a fait qu'on a pu aussi se laisser faire sans saisir ce qui nous arrivait, sans saisir le moment où on se forçait soi-même. Et là aussi, cette expérience où entre en jeu à la fois le surmoi kantien, le surmoi sadien, est au cœur de l'expérience toxique. Et au fond, c'est toujours après coup, et Vanessa Springora l'a bien montré aussi, que le sujet s'aperçoit une fois que quelque chose a fait forçage dans son corps, s'aperçoit qu'il a cédé à une situation qu'il a vraiment mis en danger.
Mais c'est peut-être aussi le chemin vers une pensée. C'est très conscient, c'est-à-dire c'est penser aussi par soi-même. Ose penser par toi-même, c'est-à-dire c'est ce qu'il recommande Kant. Donc c'est aussi se demander pourquoi on a agi de telle ou telle manière, c'est de se dire ben, comment est-ce c'est que ça. Je peux moi être libre face à ma
voilà. À ma alors là c'est un autre Kant, là c'est un Kant qui va en effet nous aider peut-être à nous désintoxiquer. Au fond c'est le Kant de Qu'est-ce que les Lumières qui nous dit en effet que les Lumières c'est aussi peut-être ne jamais consentir à être sous la tutelle totale d'un autre et au fond toujours d'oser savoir ce qui nous arrive.
Rousseau faisait d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, mais il faisait aussi le parallèle, par exemple, entre le pouvoir du père sur ses enfants et le pouvoir du souverain sur les citoyens.
Oui, ben Rousseau, c'est un des penseurs au fond du pacte social comme reposant aussi sur un consentement des citoyens et il est un des premiers qui a commencé à remettre en cause le pouvoir du père sur ses enfants comme étant un pouvoir naturel, c'est-à-dire qu'il considère que cette autorité du père sur les enfants peut relever de la nature tant que les enfants sont dans le besoin de recourir au père pour vivre, oui. Mais au fond, dès qu'ils n'ont plus besoin et qu'ils peuvent eux-mêmes vivre par leurs propres moyens, c'est seulement depuis leur propre consentement qu'ils reconnaissent l'autorité du père.
Bébel Gilberto, dans l'heure philo sur France Inter, choisi par notre programmateur Djoubaka qui s'expose, enfin plutôt, il expose ses collages en forme de fabulation. C'est une exposition de Mr. Djoub à la galerie Les Yeux Fertiles, rue de Seine à Paris. C'est jusqu'au 6 janvier, mais on vous met toutes les infos sur le site de l'émission.
Podem me pedir e também podem me rogar e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor não pedir, eu não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar e até sorrir e até falar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. E também podem me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor não pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me brigar, e até sorrir e até falar, podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. Podem me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor não pedir, e não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir e até falar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer. Estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu.
Référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui? Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète? Un certain mode, du jouir, le jouir de l'être parlant que vous êtes tous qui m'écoutez, s'articule. Et c'est même pour ça qu'il va au stéréotype. Mais un stéréotype qui est bien le stéréotype de chacun. Il y a quelque chose qui témoigne d'un manque vraiment essentiel. Même les philosophes, il est vrai que c'est sur le tard, avec Spinoza, étaient arrivés à ça, que l'essence de l'homme est le désir. Il est vrai qu'ils ne mesuraient pas bien à quel manque le désir répond. À quelque chose, il faut bien le dire, de fou. À quoi, pendant longtemps, on a substitué la perfection attribuée à l'être suprême. Cet accent sur l'être, c'est ce qu'il y a de fou là-dedans. L'être se mesure au manque propre à la norme. Il y a des normes sociales, faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud. La façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise que là, pour meubler, n'est-ce pas, on se rue avec toutes sortes de notations qui se prétendent scientifiques et on croit que ça éclaire la question. C'est très remarquable, ce double jeu de la publication analytique entre ce que peuvent, chez les animaux, détecter les biologistes et d'autre part... Ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le sujet de sa vie sexuelle. Les deux termes n'ont aucun rapport. D'un côté, c'est l'inconscient, de l'autre, c'est une approche scientifiquement valable, celui de la biologie.
Mais qui était donc ce monsieur que nous venons d'écouter, Clotilde Le Guil?
Cet extrait de Jacques Lacan à France Culture est quand même assez extraordinaire parce que, bien qu'il y ait des choses complexes, il y a aussi une chose qui est très simple qu'il nous dit là. C'est au fond que qui nous éclaire aussi sur l'expérience toxique. Il nous dit au fond que chacun s'interroge et se demande s'il y a quelque chose qui se répète dans son existence. Et effectivement, l'expérience toxique, elle a à voir avec la question de la répétition, avec ce que Freud a appelé la compulsion de répétition. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est toxique. C'est qu'au fond, la mauvaise rencontre, ce n'est jamais qu'une seule fois. La mauvaise rencontre, elle laisse en nous un poison qui fait que on va, sans le savoir, s'arranger pour répéter justement ce qui vient mettre à mal notre désir. Et donc, je trouve que cette formulation toute simple de Lacan qui part de la question de la répétition et qui en vient finalement à la question du désir, eh bien, elle nous permet vraiment d'apercevoir à la fois ce qui est de l'ordre du toxique et ce qui est de l'ordre de l'antidote au toxique, à savoir le désir.
Merci beaucoup, Clotilde Le Guil. Je ne me permettrai pas de vous demander si vous êtes aperçu que votre rapport à la vie s'était métamorphosé après ce livre, mais à mon avis, un petit peu, non?
Ah oui, certainement.
L'ère du toxique, essai sur le nouveau malaise dans la civilisation, c'est paru au PUF, aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup.
Merci.